Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue en ce mercredi 18 mai 2022. Bonjour Yaoi. God bless you. Bonjour à Rosie. Deux degrés chez vous actuellement. Oh, c'est chaud. Nous actuellement, il fait, que je regarde, il fait à peine 8 degrés à l'extérieur. Et je crois que ça ne monte pas plus que 15 degrés aujourd'hui. Par contre, le 32, on devrait l'avoir samedi ou dimanche, je crois. Donc, on vous souhaite de passer une belle journée, Rosie. Yaoi, tu as fait de la planche à neige et du ski tout l'hiver. Et là, un petit 8 degrés, tu trouves qu'il fait froid. Come on, you're tougher than that. Come on. Just joking. 37 degrés avec l'humidex. Non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Marie-André, bonjour. Farley, bonjour. Hermana Florie. Hermano Luis, bonjour. Rachel, bonjour. Bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. Ocilia, Chantal, Mona. On est très contents de vous avoir toutes quatre. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Ah oui, l'hiver, c'est aussi l'occasion de faire de la tire. C'est pas mal ça non plus, hein? Lucie, bonjour. Farley, coucou. J'avais annoncé hier que je n'étais pas là aujourd'hui, mais en fin de compte, l'heure de départ a été changée, donc je vais quitter tout de suite, tout de suite, tout de suite après la bénédiction matinale. C'est plutôt demain que je ne serai pas là. Demain, j'ai un rendez-vous médical et j'aurai pas le temps de faire le chemin de retour depuis le rendez-vous médical jusqu'au bureau. Bonjour à ma mère, à mon père, et vice-versa à mon père et à ma mère. Alors, on poursuit notre étude du verset 1 dans Jérémie 33. Jean Rosario, bonjour. Dieu vous bénisse. Francine, bonjour. Nathalie, bonjour. Guy, bonjour. Natacha, bonjour. Le bonjour à la petite famille aussi, à Indiren et aux enfants. Merci Francine, bonjour à vous aussi, soyez bénis. Je regarde sur le côté ici parce que c'est là où j'ai l'écran de l'ordinateur. Et lorsque je regarde ici devant vers le bas, c'est parce que j'ai un deuxième écran là. Un m'indique un peu les messages et l'autre m'indique les gens qui se connectent. Là, on vous rappelle qu'il y a deux rendez-vous aujourd'hui. Donc, celui-ci ce matin, et bien sûr, on a rendez-vous ce soir à l'étude biblique à 19h. Marie-Huguette, bonjour. L'étude biblique est en présentiel et en virtuel. Donc en ligne plutôt et en présentiel tous les deux. Bonjour la belle-mère. Bonjour à la sœur Nancy. Merci Marie-Huguette, sois bénie toi aussi. Donc j'ai vu que dimanche les petites filles t'ont accompagnée. Une très bonne chose. Non, il n'y a plus d'inscription, il n'y a plus de restriction d'âge, il n'y a plus de distanciation, et pour ceux qui le veulent, il n'y a même plus de masque. Donc, tous ceux qui veulent venir peuvent venir. J'espère être rentré à cette heure-là et être là ce soir. Mais il se pourrait que je sois encore sur la route. J'ai quelques arrêts de prévu sur le chemin de retour, donc on va voir comment ça se passe. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. Bonjour Julie, j'espère que vous allez bien. Salutations à votre époux. On peut déjà ouvrir nos Bibles dans Jérémie au chapitre 33. C'est le texte qu'on va encore développer ce matin, le verset 1 bien entendu, à travers les trois semaines en incluant celle-ci. On étudie donc Jérémie 33 de 1 à 3, mais cette semaine le verset 1 strictement. Encore une minute et on va débuter. Ce qui est bien à faire l'étude au bureau, c'est que j'arrive de bonne heure après avoir déposé Daphné, je perds moins de temps sur la route et ça me permet d'avoir mon petit temps et le fragile à accrocher mon support à guitare, ce qui fait que quand j'ai envie de gratouiller les cordes, je me tourne, j'étends le bras et la guitare est sur mes genoux rapidement. Alors, on va prier. Effectivement, Marie-Huguette, Dieu est grand et on espère effectivement que ça va continuer avec les petites, qui sont relativement grandes malgré tout. Alors, prions pour débuter. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons de plonger nos regards dans ta parole. pour pouvoir l'étudier, être nourri, rassasié, fortifié par elle. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre compréhension. Et en toute chose, Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous avons prié dans le précieux, glorieux, majestueux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et là où vous êtes à la maison, vous dites tous un gros Amen. Alors je lis pour vous dans Jérémie au chapitre 33, les versets 1 à 3. Et après ça, je vais relire une ou deux fois supplémentaires le verset 1, juste pour s'assurer que celui-ci pénètre bien dans nos pensées ce matin. Alors Jérémie 33, le verset 1 nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Je répète le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Une dernière fois, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Et la phrase qu'on étudie, ou la section de phrase qu'on étudie aujourd'hui, c'est la dernière qui nous dit « pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison ». Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Vous vous rappelez que la thématique qu'on a établie pour ces trois semaines, donc celle qui est en train de s'écouler, plus les deux autres qui vont suivre, c'est les leçons de la prison. Les leçons de la prison. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est important de pouvoir tirer des leçons de toute circonstance et de toute situation qu'on est amené à traverser. Jérémie a eu à apprendre de nouvelles facettes de son Seigneur, de son Maître, à travers sa période de prison. Lorsqu'on regarde ce qu'on a eu à vivre à travers les deux dernières années, qu'on a appelé confinement, qu'on a appelé fermeture, que certains ont appelé embrigadement, emboîtement, emprisonnement. Ça a été une période difficile. Le grand malheur de cette période serait de sortir de celle-ci sans avoir appris. De sortir de cette période sans en tirer les enseignements, les leçons que nous devrions en tirer. Je dis très souvent qu'on passe tous par des moments difficiles et qu'on ne peut pas nécessairement éviter tous les moments difficiles. Toutefois, il est possible de décider comment ces choses vont nous affecter ou non, jusqu'à un certain point, bien entendu. Savoir est-ce que je peux tirer malgré tout d'un moment difficile quelque chose de positif. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une espèce de ministère tout particulier où il y avait énormément de faux pas, énormément d'erreurs qui étaient commises. Et on était un bon groupe à passer par là. Et lorsqu'on se retrouve à l'occasion avec différentes personnes qui sont passées par la même période que moi dans ce même endroit, beaucoup de critiques se lèvent, à juste titre, puisque ce qui s'y passait n'était nullement biblique et assurément pas correct. Toutefois, je dis très régulièrement, de ce passage, j'ai appris énormément. Et je dis à la blague que de certaines personnes, on apprend quoi faire, et d'autres personnes, de la part de d'autres personnes, on apprend quoi ne pas faire. Et assurément, à travers ces pratiquement 3 ans que j'ai passé dans ce ministère-là, j'ai appris quoi ne pas faire. Les exemples qu'on m'a donnés n'étaient assurément pas ceux à suivre. Les pratiques qu'on y menait n'étaient assurément pas celles que je préconise aujourd'hui. Donc, de certaines personnes, dans mon expérience ministérielle, j'ai appris quoi faire. Et de l'exemple que d'autres m'ont donné, dans le ministère et dans les années, j'ai appris quoi éviter. Mais la question, c'est à savoir, est-ce que je prends les leçons ou non? Est-ce que je désire apprendre ou est-ce que je fais même l'effort de tirer des leçons de tout ce qu'on a eu à parcourir? Et Jérémie, de sa période en prison, comme on l'a vu depuis le début de la semaine, il apprend de grandes choses. Qu'est-ce qu'il a appris qu'on a mentionné déjà lundi? C'est que Dieu parle encore. Même en prison, Dieu parlait à Jérémie. Que Dieu est encore le même, quelles que soient les circonstances. Il est toujours l'Éternel, donc qui est constant dans sa façon d'être, dans son état, dans sa nature, dans ses prérogatives, dans ses attentes. Dieu reste effectivement le même. De par le nom de Jérémie, on a aussi appris que Dieu établit ses serviteurs. Alors que l'on passe par un moment difficile ou qu'on passe par un moment facile, plus agréable, ça ne dicte pas si nous sommes ou non dans la volonté de Dieu et si nous sommes oui ou non établis par Dieu. L'établissement d'un serviteur de Dieu, c'est bien au-delà des circonstances qu'on pourrait trouver agréables ou désagréables, favorables ou défavorables. Et on se rappelle l'histoire de Jérémie. Dieu lui dit qu'il l'établit aujourd'hui comme une colonne de fer, comme une tour parmi le peuple, et que le peuple, et lorsqu'il parle du peuple, et lorsqu'il parle de ses chefs et de ses dirigeants, il ne parle pas de Babylone, il ne parle pas des Philistins, il ne parle pas des ennemis traditionnels d'Israël. Non, il parle de la maison d'Israël elle-même qui va se lever et faire la guerre à Jérémie. Et dans ce premier verset, on se rend compte que Jérémie est en prison, pas dans la prison de Nebuchadnetsar, le roi de Babylone, il n'est pas dans la prison des Assyriens, il n'est pas dans la prison des Philistins, il est dans la prison de Sédécias, le roi de Juda. Le roi à Jérusalem, c'est là où Jérémie a été mis en prison, donc par ses propres frères, par la maison d'Israël qui s'est levée contre lui. Ça pourrait être un moment de désarroi profond, plutôt, c'est un moment d'apprentissage. Donc, Dieu établit encore ses serviteurs, Dieu continue à parler, même dans les circonstances difficiles. Et hier, on a terminé avec le mot « amar », qui voulait dire ce pacte, cet énoncé, cette proclamation de la part de Dieu, où Dieu s'engage encore et toujours envers ses serviteurs. Et aujourd'hui, donc, on étudie la phrase « pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison ». Trois mots importants. Enfermé, la cour et la prison. Pendant qu'il était encore enfermé. Enfermé, c'est le terme « azar ». Azar, A-S-A-R. Je répète, azar, A-S-A-R, pour le terme « enfermé ». Qui va nous parler d'un lieu où on est restreint dans nos mouvements, dans notre activité, un lieu qui est clos, un lieu dans lequel on est détenu, retenu, dans lequel on est freiné, stoppé, réfréné, donc dans lequel on n'a pas la liberté d'action. Et la Bible nous dit que dans cet endroit où Jérémie n'avait pas toute la liberté d'action qu'il aurait voulu, dans cet endroit et dans cette période de ministère où Jérémie aurait certainement voulu proclamer avec plus d'aisance, avec plus de véhémence, le message de Dieu, sachant qu'un ennemi allait attaquer Israël, qu'Israël allait être envahi, qu'Israël allait être battu, assurément Jérémie aurait bien voulu avoir toute la latitude d'action que Jonas va avoir à Ninive en se promenant dans les rues et en disant « Faites attention, revenez de vos mauvaises voies, repentez-vous parce que le châtiment de Dieu va tomber ». Non, Jérémie dans ce moment-là est freiné par les hommes, freiné par Israël, freiné par ses frères et par les dirigeants de la nation qui l'empêchent de faire l'œuvre à laquelle il est appelé. Mais malgré ça, la parole de l'Éternel vient le trouver en prison. J'aimerais te dire que même dans cette période de COVID, dans cette période où on a été brimé dans nos droits, brimé dans nos libertés. Était-ce de l'abus? C'est une définition qui est propre à chacun d'entre vous. C'est un verdict ou un jugement qui est libre à chacun d'entre vous. Était-ce exagéré? Probablement que l'histoire nous révélera si ça l'était ou pas. Chose certaine, c'est qu'on a tous subi à un moment donné ou à un autre une certaine restriction des droits, des libertés qui étaient nôtres. Et toutefois, Dieu, malgré tout, a continué à venir vers nous. Dieu nous a visités de maintes façons. Dieu nous a visités à travers sa parole. Dieu nous a visités avec le nombre exponentiel ou le nombre accru de réunions que nous avons eues. Si vous calculez toutes les réunions qu'on a eues, ben depuis 2 ans et demi, en calculant les fois où il y a double réunion dans une même journée, ben on a eu plus de réunions que de jours qu'il y a eu en 2 ans et demi de pandémie. Ça veut dire que de façon quotidienne, Dieu nous a donné à manger, Dieu nous a donné l'occasion de partager sa parole, ce pain de vie qu'il nous a octroyé. Dieu est venu à notre rencontre par tous ses messagers, par tous ses messages, à travers les 2 dernières années. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas le fruit de l'imagination d'un pasteur, ce n'est pas le fruit de la décision d'un groupe pastoral, d'un collège pastoral, c'était l'impulsion de l'Esprit Saint qui nous a amenés à mettre de l'avant de telles choses. Et gloire à Dieu, on ne se pète pas les bretelles, on ne s'enfle pas la tête, la plupart des églises ont fait ainsi. Pourquoi? Parce qu'en tant que collège pastoral et en tant qu'équipe pastorale, on avait ce désir d'apporter une nourriture adéquate à notre congrégation, à nos membres, dans une période qu'on savait aussi exigeante. Alors Dieu, encore aujourd'hui, vient visiter ses serviteurs. Même lorsqu'on se retrouve dans un endroit isolé, Dieu vient visiter ses serviteurs. J'ai entendu moult témoignages un peu similaires à l'époque de l'Empire communiste, de l'Empire soviétique, et même aujourd'hui, plus récemment, dans les pays islamistes. On entend que sans même qu'il y ait des prédicateurs qui se lèvent, même là, le Seigneur vient se présenter. Il y a des gens qui ont des visions actuellement, des musulmans qui ont des visions où Jésus vient se présenter à eux, un peu comme le Seigneur va le faire sur le chemin de Damas avec Paul, en disant une grande lumière apparaît, Paul tombe de son cheval, les autres soldats entendent la chose mais ne voient pas ce qui se passe et ou voient plutôt la lumière mais n'entendent pas la conversation avec Paul, et Dieu va dire à Paul, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Jésus qui lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Donc une rencontre suscitée par Dieu auprès de certaines personnes. Même dans des temps difficiles, ça se fait. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même a dit, « Si ses enfants se taisent, ses enfants qui élèvent le nom de Jésus, si ceux-ci se taisent, les pierres même vont commencer à proclamer son nom. » Donc encore aujourd'hui, Dieu vient auprès de ses serviteurs. Ce qui est important et ce qui est encourageant dans avec un tel fait, c'est de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Dans ces moments de désarroi qui ont pu être nôtres et dans les moments de désarroi qui peuvent encore être nôtres aujourd'hui, nous avons cette assurance que non seulement Dieu regarde, que Dieu comprend et voit les moments difficiles que nous avons, mais Dieu se présente. Et c'est une tendance tout à fait avérée, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. pensez simplement dans l'Ancien Testament des cas comme Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel qu'on va mettre dans la fournaise. Lorsque le roi va regarder, il va dire, par la petite lucarne, il va dire, j'en ai jeté trois à l'intérieur et il y en a un quatrième. Et le quatrième ressemble à un fils de Dieu. Et ce quatrième, c'était Christ qui marchait avec ses serviteurs en plein cœur de la fournaise ardente. Celui qui a fait taire les lions dans la fosse aux lions de Daniel. Christ présent, l'Esprit de Dieu présent là, qui calme totalement les fauves. Celui qui va se tenir aux côtés de David. David qui va dire à Goliath, « Toi, tu viens avec ta lance, avec ton épée, avec ton armure. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens avec l'Éternel des armées qui campe avec moi. » David devant Goliath n'est pas seul. Et lorsqu'on retourne dans le Nouveau Testament, on se rappelle comment Pierre et Jean vont être libérés de la prison, comment un ange va venir ouvrir la porte et va venir les faire sortir jusqu'à l'extérieur de la prison, comment il va se passer la même chose avec un tremblement de terre, alors que Paul et Silas sont en train de louer Dieu dans le fond d'un cachot, d'une prison obscure, et Dieu les visite là encore. Comment, même dans des contrées où ils n'avaient pas encore entendu parler de Jésus, comment le Seigneur va se présenter à Corneille et aux siens en leur disant « Allez chercher Pierre pour que Pierre vous enseigne ce qui doit vous être enseigné. » Donc le Seigneur se présente encore aujourd'hui auprès de ses serviteurs. Et je suis convaincu qu'on a tous et tous et tous et tous des témoignages dans lesquels le Seigneur est intervenu. Des moments où on passait par des difficultés toutes particulières et Dieu s'est présenté et est intervenu en notre faveur. Des clins d'œil par moment qu'on a de la part de Dieu, j'en mettais un dernièrement, très personnel et très simplet pour plusieurs, mais tout simplement comment Dieu est intervenu dans la recherche que j'avais d'une tondeuse, comment Dieu a placé les choses et comment il m'a béni à travers ça. Donc on a tous, dans les bons et dans les mauvaises circonstances de notre vie, mais particulièrement ici, puisque le texte en parle dans ce moment de prison, dans ce moment de terreur de Jérémie, comment Dieu se présente auprès de son serviteur. Et Dieu le fait encore. Même lorsqu'on est stoppé, même lorsqu'on est réfréné, même lorsqu'on est enfermé, Dieu vient encore auprès de ses serviteurs. La Bible nous dit, et on continue avec le deuxième mot, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. La cour, le terme Hazer, H-A-S-E-R, Hazer, H-A-S-E-R, qui nous parle, oui, d'un endroit clos, d'un endroit clôturé, d'un endroit fermé, qui nous parle d'une enceinte qui est impénétrable, mais de surcroît à cela, qui nous parle aussi d'un tribunal. Pourquoi tribunal? Pourquoi ici le mot « cour » va vouloir non seulement parler de ce qu'on appellerait un jardin intérieur, et parler aussi d'une cour pénale, d'une cour juridique? Pourquoi? C'est qu'à l'époque où le texte a été écrit, on n'avait pas les tribunaux comme on les a aujourd'hui. On n'avait pas un palais de justice comme on peut l'avoir fréquemment dans nos diverses nations. En fait, à l'époque, la cour, le tribunal, de même que la prison, était dans un même lieu, très souvent dans la cour même du monarque, dans la cour du roi. Donc ici, le roi fait arrêter Jérémie et l'a placé dans sa cour, dans son jardin, dans une prison qui était annexée à son palais royal, de laquelle il ne pouvait pas sortir. Et c'est dans cette même prison qu'il est jugé. Lorsqu'on parle de la cour ici, On parle donc que Dieu se présente dans cet endroit où Jérémie est accusé. Faussement, bien entendu. Avec erreur, assurément. Jugé, mais malgré tout, Dieu se tient à ses côtés. Et Dieu se tient encore à nos côtés aujourd'hui. C'est lui qui nous dit être notre vengeance et notre rétribution. Très souvent, on a cette impulsion personnelle de prendre les choses en main et de se venger soi-même. Mais ce faisant, on fait une grave, grave erreur. Et on pêche, en fait. Parce que la Bible nous dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » C'est Dieu qui dit, « La vengeance m'appartient, la rétribution m'appartient. » Alors, que se passe-t-il lorsque moi, je prends la vengeance et la rétribution entre mes propres mains? Lorsque j'exécute moi-même une vengeance et une rétribution, que se passe-t-il? Je suis en train de voler Dieu. Je prends des choses qui lui appartiennent sans qu'il ne me les ait données. Et ce faisant, je me rends coupable de vol devant Dieu. Il faut vraiment s'arrêter aux termes que la parole de Dieu utilise. Très souvent, on dit, oui, bon, le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je lui donne simplement un petit coup de main. Je l'aide simplement un peu. Non, non, tu usurpes le droit de Dieu. Tu usurpes l'autorité de Dieu. Tu n'es en aucun cas habilité, tu n'es en aucun cas mandaté pour exercer la vengeance de Dieu, pour exercer la rétribution de Dieu. Alors lorsque tu prends cette rétribution qui ne t'appartient pas, lorsque tu prends cette vengeance qui ne t'appartient pas entre tes mains, ben tu voles Dieu. Est-ce vraiment quelque chose que l'on veut? Assurément pas. Si on réfléchissait, si on agissait avec un peu de sagesse, si on prenait le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de faire, on saurait que on se met dans de plus graves problèmes encore en volant Dieu qu'en subissant l'ignominie de ceux qui nous malmènent. Voilà pourquoi Jésus va dire dans le Nouveau Testament, « Si on te frappe sous la joue gauche, tends la joue droite. » Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que la vengeance ne nous appartient pas. Donc, il nous dit, « Regarde, laisse tomber la vengeance. Si on te frappe, tends l'autre joue. » Pourquoi? Parce que cette vengeance, si tu l'exerces, tu pèches. Dieu se tient à tes côtés. Dieu se tient à tes côtés pour exercer pour toi vengeance. Dieu se tient à tes côtés pour exercer sur toi la protection. Rappelons-nous ce qu'on a étudié il y a quelques semaines dans la vie de Job. On se rend compte que c'est le diable qui attaque, qui met à l'épreuve Job, mais Dieu délimite la portée de cette attaque et la portée de cette épreuve. Dieu est là pour exercer justice, pour que le diable n'outrepasse pas ce qui lui a été autorisé. Dieu va dire au diable, « T'as le droit de toucher le corps de Job, mais n'attends pas à sa vie. Je ne te permets pas d'aller plus loin. » Et quand la vengeance devait s'arrêter, quand plutôt l'épreuve devait s'arrêter, Dieu va claquer des doigts et l'épreuve va s'arrêter. Le diable n'a pas le droit d'exercer ce qu'il veut, comme il veut, autant qu'il veut, sur toi. C'est limité par Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur peut dire que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos capacités, au-delà de nos forces, que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Ça veut dire que toute épreuve que Dieu permet dans notre vie, toute épreuve que Dieu permet dans notre existence a des limites. Et cette limite, c'est notre capacité à résister. Mon frère, ma sœur, tu es capable de résister à l'épreuve parce que Dieu est au contrôle à côté de toi. Tu es capable de résister à la tentation parce que Dieu est au contrôle à côté de toi. Tu es capable de résister à la tentation de te venger toi-même parce que celui qui exerce la vengeance est à côté de toi. Le grand malheur pour toi et pour moi, si on revient et on s'arrête une dernière fois sur la thématique de la vengeance, c'est que très régulièrement, on veut non seulement participer, ou tout au moins assister à la vengeance de Dieu. On n'a pas envie que la vengeance se fasse sans qu'on ne soit conscient. On n'a pas envie que la rétribution se fasse sans qu'on ne se satisfasse un peu d'avoir vu la souffrance chez celui qui nous a offensés. Si la vengeance ne t'appartient pas, quelle qu'en soit la manifestation, quelle qu'en soit la force, quel qu'en soit le temps, ça ne te regarde pas. Dieu peut te montrer, s'il le veut, mais Dieu n'est nullement tenu d'exercer sa vengeance pour que tu la voies. Il te dit simplement, la vengeance, la rétribution m'appartiennent, laisse-moi ça entre les mains. Et il est à tes côtés pour que la pression qui est exercée sur toi ne dépasse pas les limites auxquelles tu es capable de faire face. Donc, deux points qu'on a vus jusqu'à présent. Dieu vient encore à ses serviteurs et Dieu se tient encore avec ses serviteurs. Même lorsque Jérémie était faussement accusé, même lorsque les gens lui ont fait la guerre, Dieu venait auprès de lui et ce faisant, il disait à Jérémie, « Regarde, on t'accuse d'un tas de choses. On t'accuse d'être un faux prophète. On t'accuse de ne pas être réellement à mon service. On t'accuse de vouloir te faire une popularité à mon dépens. Je suis à tes côtés. Je suis avec toi en tout temps, en toutes circonstances. » Jésus va nous dire, « Voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin. » Ça veut dire que Jésus est avec nous lorsque les choses vont bien, mais ça veut dire aussi que Jésus est avec nous lorsque les choses ne vont pas bien. Ça veut dire que Jésus est avec nous lorsqu'on le voit et on le sent, mais que Jésus est aussi avec nous lorsqu'on ne le voit pas et lorsqu'on ne le ressent pas. C'est une question de maturité. Crois-tu que Jésus est là simplement parce que tu le sens et tu le ressens? Ou crois-tu effectivement qu'il est là, réellement là, véritablement là, à tes côtés, même si tu ne vois pas, même si tu ne le vois pas intervenir, même si tu ne ressens pas sa présence, même si tu ne ressens pas son intervention, Jésus est réellement là, à tes côtés, même dans ces moments d'injustice à ton égard. La Bible nous dit, et on termine sur ce mot aujourd'hui, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Dans la cour de la prison. Prison, c'est le terme matara en hébreu, donc M-A-T-T-A-R-A, matara, M-A-T-T-A-R-A, qui veut nous dire un endroit qui est gardé, un endroit qui est scellé, un endroit qui est ciblé dans le sens où les regards sont portés dessus. Un peu comme ces gardiens qui se tenaient dans des tours, dans des corniches autour de la prison et qui regardent dans la cour intérieure où est enfermé Jérémie pour s'assurer qu'il n'y a pas de tentative d'évasion. Un endroit qui est si scellé, si fermé que personne n'y entre. Un endroit qui est si sombre et si obscur que personne ne peut y accéder. Lorsque Pierre et Jean étaient dans une espèce de cachot comme celui-là, Dieu est venu les délivrer. Lorsque Paul et Silas étaient dans un cachot aussi obscur que cela, Dieu est venu les délivrer. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans une fournaise et que leurs gardiens, les soldats qui les ont jetés à cause de la chaleur ambiante sont morts lorsque les portes ont été ouvertes pour jeter ces trois amis, eux sont restés vivants, les autres sont morts. Donc, c'est un endroit qui était inaccessible et pourtant, la Bible nous dit que trois ont été jetés dans la fournaise, mais qu'il y en avait un quatrième qui y marchait. Dieu n'est jamais restreint. Peu importe la prison dans laquelle on t'enfermerait, Dieu n'est pas restreint. Peu importe l'épaisseur de l'opacité qui t'entoure, Dieu n'est pas restreint. Peu importe combien on pourrait vouloir t'isoler, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour te secourir, pour te soutenir et pour te permettre d'avoir toute la bénédiction qui se doit. Mon frère, il y a des choses à apprendre de la prison. Le secours de l'Éternel, on peut l'apprendre théoriquement lorsque tout va bien et on lit des témoignages. Mais le secours de l'Éternel, on l'expérimente d'une façon indéniable et d'une façon marquante dans notre existence lorsque tout va mal. Il y a des versets qu'on connaît lorsque tout va bien, mais qu'on expérimente lorsque les choses vont mal. Ce verset qui dit qu'il nous donne une paix qui dépasse l'entendement. J'avais prêché sur ce verset, je connaissais intellectuellement ce verset, je l'ai expérimenté lorsque je suis passé dans ma tribulation face à la maladie. Lorsque je suis passé dans ces moments où tout le monde qui passe par une telle situation sombrait autour de moi, où tous les autres patients étaient déprimés, les infirmières elles-mêmes disaient « Mais il est encore en train de sourire ?» Il sourit et elle ne comprenait pas que je puisse continuer à sourire. Mais je souriais pourquoi ? Parce qu'il y avait une paix qui venait de la part de Christ qui était à mes côtés. Même dans cette fournaise ardente, même alors que j'étais en train de prendre la chimiothérapie dans le plus fort dosage que les médecins osaient utiliser, même dans ces moments-là, je continuais à sourire parce que je savais qu'il était avec moi. J'expérimentais cette paix qui dépasse l'entendement. Mais cette paix, on ne l'expérimente que dans le moment de tribulation. La consolation de Dieu s'expérimente à travers la tristesse. La présence de Dieu s'expérimente richement à travers la solitude. La joie de Dieu s'expérimente dans le désarroi. L'espoir qui vient de Dieu s'expérimente lorsque l'espérance à laisser le pas. La paix de Dieu s'expérimente lorsque tout est en train de sombrer autour de nous. Le repos de Dieu s'expérimente lorsqu'on est exténué. Que dit Jésus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et alors je vous donnerai du repos. Il y a des choses qu'on peut apprendre intellectuellement de Dieu. Il y a des choses qu'on expérimente strictement dans les moments difficiles. Mais une fois qu'on les a expérimentées, une fois qu'on l'a vécu, ça devient notre témoignage. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être dans une prison aujourd'hui. Tu es peut-être dans un lieu obscur aujourd'hui. Tu es peut-être dans un lieu de désarroi aujourd'hui. Mais ça va te permettre d'expérimenter la riche et merveilleuse présence de Christ qui ouvre la prison par un tremblement de terre, qui envoie un de ses serviteurs ouvrir les portes de la cellule ou même qui vient prendre une marche en plein cœur de la fournaise ardente pour que tes vêtements ne s'embrasent point et que même tes vêtements ne sentent même pas la fumée. Mon frère, ma sœur, c'est dans la prison qu'on expérimente la liberté qui vient de Christ. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour cette parole qui nous a été donnée ce matin, une parole encourageante qui nous rappelle que tu viens encore à nous aujourd'hui, que tu viens encore vers nous aujourd'hui, que tu te tiens à nos côtés lorsque tous nous abandonnent, lorsque tous se lèvent contre nous, c'est toi qui te tiens à nos côtés et que ton bras ne peut pas être restreint, que ton action ne peut pas être bloquée, que ta délivrance ne peut pas être stoppée. Seigneur, merci. Merci de nous apprendre aussi à pardonner, à ne pas tenir rigueur. Merci de nous apprendre à ne pas nous venger, à ne pas faire preuve de rétribution, mais en te laissant entre tes mains ce qui t'appartient, dont la vengeance et la rétribution. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où on a pris la vengeance entre nos mains et littéralement on t'a volé de ce qui t'appartient. Pardon, Seigneur, nous avons mal fait, mais tu nous donnes encore le souffle de vie pour mieux faire. Alors je prie, Seigneur, que ma sœur, que mon frère, que moi-même, nous puissions maintenant bien faire les choses. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu nous aimes, que tu prends soin de nous. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère, je bénis cette rencontre que tu auras avec eux aujourd'hui, cette visite de ton esprit dans leur vie. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour eux. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle ce soir rendez-vous avec l'étude biblique à 19h en présentiel ou en ligne comme vous préférez. Et demain matin, je le répète, je l'ai dit en début de séance, je l'ai annoncé aussi, je ne serai pas là en onde. Demain, j'ai un rendez-vous médical et ça va être difficile de faire le va-et-vient entre le bureau et puis le lieu de rendez-vous. Donc, on se retrouve vendredi matin pour notre temps de jeûne et de prière, toujours à 8h30. Alors, ce soir, 19h, et puis vendredi matin, 8h30. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.